بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون إخواني في الله نغمس الله عز وجل كنو شوزي سوار pour assister à une assemblée, prendre part à un majlis, on va essayer de comprendre la parole d'Allah Rabbul Izza à travers cette sourate Al-Ma'arij et la fin de la sourate Al-Ma'arij, le troisième tiers, on va dire, de la sourate Al-Ma'arij, où Allah Azza wa Jal annonce et cite les qualités des pieux, des croyants, des personnes qui sont sur le droit chemin, des personnes qui comprennent la sunna d'Allah, l'organisation d'Allah de ce dunya, la relation entre ce monde et l'au-delà. Ces personnes qui, dans les moments d'adversité, dans les moments de difficulté, ne vont pas fléchir, ne vont pas chuter, ne vont pas, je ne vais pas dire, ne vont pas déprimer, même si on peut être triste, mais la personne ne perdra jamais confiance en Allah. C'est des personnes qui, lorsqu'Allah leur accorde des bienfaits, ben, la richesse ou la réussite ou la concrétisation de leurs souhaits, de leurs projets, de leurs vœux, ne leur fait pas oublier Allah Azza wa Jal. Parce que dans la nature de l'être humain, il est dans la nature de l'être humain de perdre espoir lorsqu'on perd un acquis. Dans une situation d'adversité, d'épreuve, de difficulté, Allah Azza wa Jal le rappelle, « Inna l'insana khuliqa halwa'a » Donc cet être humain perd le contrôle dans une situation d'adversité et oublie son Seigneur, oublie tout ce qu'Allah lui a accordé avant et oublie que la difficulté, l'épreuve vient de qui ? Vient d'Allah Azza wa Jal. Et que l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal a envoyée, l'épreuve est taillée sur mesure. On peut dire ça. L'épreuve, c'est sur mesure. L'épreuve de Hudhaifa, l'épreuve de Iqbal, l'épreuve de Abdul Hamid, de Anwar, d'Ibrahim, ne sont pas de la même ampleur, ne touchent pas les mêmes domaines, ne sont pas aussi puissants, aussi percutants, aussi difficiles à gérer. Allah Azza wa Jal, qui est Al-Latif, le bienveillant, qui accorde à ses serviteurs ce qu'il y a de mieux pour eux, tant concernant les bienfaits, mais également les épreuves. Allah Rabbul Izzah connaît exactement ce qu'il envoie, pour quelle personne et pour quel but, et quelle doit être la réaction de ce croyant. Ainsi, le mu'min, contrairement à cet homme qui suit la nature humaine, qui penche vers le désespoir et qui oublie que les épreuves viennent d'Allah et que la délivrance vient d'Allah, celui qui réunit les qualités que nous allons citer, que nous avons lues dans le verset, on peut résumer à 9 qualités, ben, ce croyant-là, lui, il a la vision qu'Allah attend du mu'min. Son iman, ses a'mal, mais également sa confiance et sa relation avec Allah Rabbul Izza. Vous savez, ce monde est un monde d'épreuves. Celui qui vient vous dire que je mène une vie, je coule une vie qui est sans difficulté, sans taclif, sans la moindre épreuve, ce n'est pas possible. C'est qu'il vit dans un monde parallèle. Ou alors il est sous l'effet de certaines substances qui fait que même les difficultés, il les voit comme des choses amusantes. C'est impossible. Ce dunya, c'est jnul al-mu'min. Prison pour le croyant. Une terre d'épreuves. Donc on n'est pas à l'abri des preuves qui viennent d'Allah, d'être éprouvé. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ La peur. وَالْجُوعِ الْجُوعِ c'est la faim, qu'Allah nous protège, le manque de nourriture. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ Diminution des biens. وَالْأَنْفُسِ La perte d'un proche. Il n'y a pas une personne dans cette assemblée qui n'a jamais perdu un proche. C'est, ça fait partie de la vie. Wa thamarat, la récolte. C'est-à-dire, comprenons notre subsistance. Ça peut être notre commerce ou ce que nous utilisons pour vivre. Wa bashir as-sabirin. Et Allah Rabbul Izzah appelle, annonce la bonne nouvelle aux patients. Alladhina idha asabat-hum musiba. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints d'une épreuve, qalu, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils s'en remettent à Allah. Les cœurs s'orientent immédiatement vers Allah. Ce n'est pas là une réaction facile. Facile de le dire, facile de prêcher. Et très souvent, je trouve que les personnes qui essaient, je dis bien entre guillemets, essaient d'encourager les autres dans les épreuves, ben, je pense que des fois, ils devraient se taire. Quand une personne est au fond du trou, quand une personne est dans une difficulté terrible, il n'est pas adéquat de lui dire que oui, mais sois patient, il ne faut pas t'en faire, ça c'est une épreuve. Tu ne vis pas ce qu'il vit. Tu ne vis pas ce qu'il vit. Il n'a peut-être pas besoin de toi. Il a besoin des réalités de la foi. Ne lui parle pas, ne banalise pas son problème. Ne banalise pas sa maladie. Ne banalise pas la perte de son père, de sa mère, ou de son épouse, de son fils. Ne banalise pas la perte de son travail, ou ainsi de suite. Il ne faut pas lui faire croire que c'est rien, ça c'est dunya. Non, ça c'est pas la méthode nabawi. L'encouragement, ce n'est pas le fait de banaliser la difficulté de ton frère en islam. Parce que toi tu ne vis pas ce qu'il vit. L'encouragement, c'est de rappeler que tout vient d'Allah. Quand le prophète a perdu son fils ou son petit-fils, je dois revoir le hadith, il avait fait porter le message, hein, Qasim. Il avait fait porter le message à sa fille, transmet le message, Sbiri. Sois patiente et attends la rétribution qui vient d'Allah Azza wa Jal. Nous appartenons à Allah, nous revenons vers lui. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et après il a dit fasbir wa ihtasibi. Ce que nous avons, c'est Allah qui nous donne. Tout ce que nous avons, ça vient d'Allah. Et quand Allah donne, on remercie Allah, on est reconnaissant. Mais quand Allah décide de reprendre, ben ça lui appartient ça. Ton fils, c'est Allah qui te l'a donné. S'il reprend, c'est son haq, c'est son mulk. Les cœurs doivent toujours être orientés vers Allah. C'est-à-dire, rappeler iman yaqin, conviction. Notre création, notre relation avec notre Rabb, la sunnah d'Allah, l'organisation d'Allah. Ne va pas directement dire que ce n'est rien, la mort c'est quelque chose de normal. Là, rappelle-lui que tout vient d'Allah. Fais en sorte, il n'a pas besoin de toi pour s'en sortir. C'est pas Muhammad Ibrahim Ishaq qui va l'aider. C'est son cœur qui se connectera avec son Seigneur. Son tawakkul, sa confiance en Allah, dans cette épreuve-là, il a 4%. Comme votre portable, quand il a 4%, il clignote. Il ne peut plus se connecter. Il te dit, tu veux Waze, il ne peut pas, parce que c'est trop faible. Il faut le recharger. C'est pas les êtres humains qui vont le recharger. C'est le cœur qui va puiser, qui va trouver le réconfort dans Imanun Billah, dans la foi en Allah Azza wa Jal. Vous voyez la méthode Nabawi? La méthode Nabawi, à travers ce hadith, c'était de rappeler que tout ce que tu as, c'est Allah qui te donne. Et quand il reprend, je t'en remets à lui. Et en finalité, tout le monde revient vers Allah. Wa kullu shay'in bi ajalin musamma, 'indahu bi ajalin musamma. Toute créature qu'Allah a créée, envoyé sur la terre, c'est Yajali Musamma. Yajali Musamma, c'est pour un délai fixé par Allah. Allah décide de la date de naissance et de la date de retour vers lui. Et c'est comme ça. Allah l'a décidé avant même de te créer. Donc, comprends que ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une calamité, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une catastrophe, c'est la décision d'Allah. Mais, en rappelant à l'éprouver, le Mubtala, la personne qui est éprouvée, que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, pour arriver à ce degré de iman et de sabr, de patience. Parce que la patience, ça reflète la puissance de la foi. Mais pas la patience où on refoule. La patience où on refoule, on essaie d'oublier l'épreuve, elle est dangereuse. Parce qu'à un moment donné, tu risques de rechuter. C'est peut-être qu'il y a eu un traumatisme que tu as évacué. Parfois, quand les psychologues disent, il faut faire le deuil d'eux. Il faut faire le deuil de tel événement, ce qui veut dire qu'il faut en parler pour que ton cerveau arrive à remettre tout dans l'ordre. Parce que si ton cerveau l'a refoulé, c'est comme si qu'il a fait une boule et il l'a mis dans un tiroir, il ne veut plus en parler, il avance. Mais il n'avancera pas lui. Il avance à 20% parce que l'attention reste sur, il y a blocage, il y a quelque chose qui ne marche pas. La clarté d'esprit du croyant réside dans sa foi en Allah. La conviction, la certitude que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Tout se résume en iman billah. Ainsi, la personne qui veut survivre de ce dunya, je ne dis pas vivre, mais qui veut survivre à toutes les situations, tant les épreuves que les situations de ni'ma. Le verset, on a bloqué kumbil, khayri wa sharri fitna. Deux catégories de fitna, d'épreuves. Al-khayr wa sharr. Allah t'éprouve par la richesse. Allah t'éprouve par, mashallah, une famille où tout le monde va bien, où tout le monde réussit, où tu n'as aucun problème. Fitna. T'accorde pour avoir ce que tu es. Tu fais quoi? Reconnaissant, barakallahu fik. Et Allah t'éprouve par ash-shar. Les difficultés, c'est ce qui est plus connu. Ce mu'min qui va avancer et ne pas se tromper dans le jugement qu'il va porter sur les événements de la vie, il doit développer les 9 qualités. J'ai dit 9, mais après on peut détailler ou synthétiser les 9 qualités qui sont citées dans la surat Al-Ma'arij, du verset 19 au verset 34. Et ces qualités-là, on les retrouve à peu près dans pas mal de surat du Coran, entre Qad Aflaha Al-Mu'minun et dans, dans d'autres versets également, ça ne me revient pas, mais pas mal de versets où on cite une quantité de sifat. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna ila akhir al-ayat, à peu près une demi-page où Allah Azza wa Jalla cite les qualités d'un côté de al-mu'minun, de notre côté de ibadur rahman, les vrais serviteurs du très clément. Et là Allah cite des qualités. Alors, ces qualités, on les avait énumérées au mois de Sha'ban. On avait abordé légèrement la semaine dernière. On avait parlé de illa al-musallin, ceux qui sont assidus dans leur prière. On avait dit que la traduction de illa al-musallin, inna l'insana khuliqa halu'a. Alors, autre bismillah. Le musallin, c'est pas uniquement la personne qui accomplit la salah. Il y avait deux sifat, deux qualités à respecter pour faire partie de ces musallines cités dans le verset. Premièrement, on retrouve. Et la musalline, c'est traduit par sauf ceux qui pratiquent la salah. Et ensuite, il y a une précision. Alladhin hum ala salatihim da'imun, de le verset 33, qui sont assidus à leur salah. Le premier tafsir, on parle de istiqama, de fermeté. Ainsi, As-Sa'di rahimahullah, il cite un tafsir qui est intéressant. Il dit que laysu kamal la yaf'aluha aw yaf'aluha waqtan duna waqt aw yaf'aluha ala wajhin naqis. Le vrai musalli, celui qui prie, cité comme qualité essentielle et qualité première dans ce couplet de versets, c'est la personne qui a istiqama, fermeté dans ses prières. Il dit cela ne concerne pas celui qui prie occasionnellement. Celui qui prie occasionnellement ne pourra pas réunir les qualités de iman requises et qui sont nécessaires pour le mu'min, pour comprendre la sunnah d'Allah et pour survivre à toutes les situations d'épreuve de bien comme de mal. Le musalli, al-musallin, c'est celui qui est régulier dans ses salawat. La personne qui fréquente la masjid uniquement mois béni ou période importante ou yom al-jum'a, intérieurement la personne n'atteint pas l'objectif qu'Allah attend de l'être humain dans sa relation avec lui par l'intermédiaire de la salat. N'oublions jamais que la salat est un intermédiaire. La salat est une ibada qui nous permet d'entretenir une conversation avec Allah, de l'implorer, de faire ses louanges et de se jeter à même le sol pour proclamer sa grandeur, sa force, sa puissance et reconnaître, nous reconnaissons notre faiblesse et comment on est muhtaj. C'est un lien avec Allah. Celui qui développe ce lien, khamsa marrat fil yawm, 5 fois par jour, durant toute sa vie, cette personne-là, il concrétise l'objectif. Parce que ce lien avec Allah existera. Et la personne qui est donc assidue de ses prières, maintenant il y a le deuxième cap, deuxième étape, autre tafsir, là on croise avec les versets de la sourate Qad Aflaha Al-Mu'minun, parce que c'est la méthode des Mufassirin, tafsir al-Qur'an bil بالقرآن commenter le Coran par le Coran et donc croiser les versets qui vont dans le même sens. Et là on a Ibn Kathir, tout à l'heure c'était Sa'di, là on revient Ibn Kathir qui dit alladhina, il dit que وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون معناه يحافظون على اوقاتها وواجباتها. Et à la fin, il dit والمراد بالدوام ها هنا السكون والخشوع كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Dit que, alors, est-ce que c'est Ibn Kathir où il relate un avis, on aimerait être précis quand on parle de ces grands savants, il relate l'avis de An-Nakhai, si je ne me trompe pas. Non, il relate l'avis d'autres Mufassirine, sans citer qui. Il dit qu'il y a un deuxième avis qui dit que les qualités, ce n'est pas uniquement Al-Mudawama, la fermeté, mais c'est également la concentration et la dévotion. Parce que, filwaqi'a, dans la réalité, nous, malheureusement, hein, qu'Allah pardonne nos manquements et nous permet d'avancer, on constate qu'on peut avoir une personne qui prie 5 fois par jour, mais qui a l'esprit totalement ailleurs. Allah musta'an. Ça, c'est le grand mal de notre société. Vous savez pourquoi? Je vous dis ou je vous dis pas? Si je vous dis, vous allez essayer d'éradiquer le problème et vous ne pourrez pas. Notre esprit, notre concentration, notre attention est aspirée par tous les loisirs que la société nous propose. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut aller s'isoler et tout, non, je n'ai pas dit ça. Mais avec la télévision, avec les publicités, avec Internet, avec WhatsApp, avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, avec Snapchat, avec quoi encore, bah, c'est bon, on a fait le tour, hein, tous les piliers des piliers de vous savez quoi même, vous-même, et avec tout ça, l'esprit vagabonde. Et l'être humain n'arrive plus à se concentrer. L'être humain n'arrive plus à se concentrer. Déjà, parfois vous voyez des gens, dès que la salat finit, première chose, avant de faire ce adhkar, ils regardent la notification. Message par message, WhatsApp par WhatsApp. Ya akhi, idha khallasta, t'as terminé ta salat, uzkurullah, fais le dhikrullah, fais dua. Yani, montre pas que tu attendais la fin de la salat pour voir qu'est-ce que insan, qu'est-ce que Banu Adam t'a dit là. Tu es devant Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un mal qui s'amplifie parce que tous ces loisirs-là, tous ces wasa'il, tous ces, on va dire, tous ces moyens qui sont mis à disposition, deviennent envahissants. Il n'y a plus de limite d'âge, ça concerne tout le monde. Et du coup, à notre époque, pour trouver la concentration dans la salat, c'est complexe. C'est très complexe. Il y a un gros effort à faire. Et là, entre la personne qui prie avec l'esprit ailleurs, la personne qui prie avec le ilm, minimum de connaissances, de tafsir, al-fatiha, et du sens des adhkar, subhan rabbi al-azim, subhan rabbi al-ala, ça on le dit tout le temps, le sens des tahiyat, lillah, wa salawat, wa tayyibat, et ainsi de suite. Et quand il le lit, il le ressent, il le lit avec cœur, ben, celui qui lit avec cœur, et celui qui lit de tête, hifdan, sans y penser, shatani bayna hadha wa hadha. Il y a un monde qui sépare les deux. Il y a un monde qui sépare les deux, parce que celui qui pense à autre chose, il ne distingue même pas le premier rakat de la deuxième rakat. Il attend que l'imam finisse pour sortir et faire autre chose. Il accomplit son devoir. Certes, le pilier est là, hein, le rukn est là. Vaut mieux cette personne que celui qui ne prie pas. Hein. Je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, ça sera abadan. Il y est. Mais alors que celui, nous on veut le modèle, on ne veut pas le contre-exemple, on veut l'exemple. L'exemple c'est Alladhina hum fi salatihim, Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui font preuve de dévotion dans leur salat, dévotion, concentration, muraqabatullah, penser d'Allah de leur cœur, réaliser qu'on est devant Allah, subhanallah. Ça apporte une lumière, une spiritualité, une force de foi exceptionnelle aux croyants. Et cet exercice-là qui se répète 5 fois par jour, et là, avec la grande sagesse de notre Seigneur dans l'enchaînement des gestuels de la prière en position debout, la génuflexion, la prosternation, la position assise, la prosternation de nouveau, tout ça c'est rythmé, c'est révélé par Allah Azza wa Jal, c'est l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est là-dedans qu'il y a la tranquillité, l'apaisement et la possibilité pour l'homme de se ressoisser, parce qu'on a besoin de se ressoisser. On ne se ressoisse pas 5 fois par jour, on est perdu. Si on ne se ressoisse pas 5 fois par jour par le biais de la salat, on est perdu. C'est-à-dire que cette salat, pour qu'elle atteigne son objectif, il y a nécessité d'avoir la khushu' là, concentration et la dévotion. Celui qui réunit ses qualités, il est déjà un niveau au-dessus, et dans les situations de difficulté, la personne va s'en sortir. Incha'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Hada. Et As-Sa'di, on revient à As-Sa'di en conclusion de ce passage sur Al-Musallin, il veut dire que celui qui a concrétisé l'objectif de la salat, yaqulu hafidh rahimahullah, الموصفون بتلك الأوصاف إنهم إذا مسهم الخير شكروا الله. Ces gens-là, ces vrais musallis, ceux qui sont assidus et concentrés, quel que soit le bienfait qu'Allah leur accorde, leur cœur s'oriente automatiquement, immédiatement vers Allah, remerciement et utilisation du bienfait dans le droit chemin, dans les bonnes œuvres. Jamais c'est quelqu'un qui fera preuve d'ingratitude. Jamais c'est quelqu'un qui va oublier Allah lorsqu'il aura eu ce qu'il a demandé. Il continue. Wa anfaqu, justement, wa anfaqu mimma khawlahum lillah. Ils vont dépenser de ce qu'Allah leur a accordé pour Allah. D'accord? Wa idha massahumu sharru sabaru wa ihtasabu. C'est là la clé. Et lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, une difficulté, sabaru. Mais ce n'est pas suffisant, sabaru. Ce qu'on a dit tout à l'heure, je n'ai pas complété après. Ne refoule pas la difficulté. Le sabr, ce n'est pas oublier et refouler. Il y a des gens qui oublient les épreuves en buvant. Il y a des gens qui veulent oublier les difficultés avec des substances, en fumant, telle chose. Qu'Allah protège. Mais il y a des gens qui veulent oublier, qui pensent à autre chose. Et qui vont se consacrer au sport, la natation, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas là la solution. Tant que tu ne réalises pas que ça vient d'Allah. Et donc, As-Sa'di, vous voyez, l'intelligent d'As-Sa'di dit que ces personnes-là, le Moussalli, dans les moments de difficulté, ils font preuve de sabr et de ihtisab. Les deux marchent ensemble. En fait, le ihtisab, ça fait partie intégrante du sabr. La patience, c'est tu prends sur toi. Tu n'exprimes pas de mécontentement et tu fais en sorte que ton cœur également est convaincu. Mais pour que le cœur soit convaincu, il y a le ihtisab. C'est-à-dire quoi, ihtisab? L'espoir de rétribution. Être convaincu que ce qui me touche comme épreuve, ça vient d'Allah, et Allah m'accordera telle chose dans le delà si je me montre patient. Se faire une raison, donner un sens à l'épreuve, donner un sens à la difficulté. L'être humain, le cerveau humain, a besoin de donner un sens à tous les événements de sa vie. Autrement, il bloque. S'il y a un événement, on n'a pas compris les tenants, les aboutissants, on n'a pas pu donner un sens, il y a un blocage. On n'arrive pas à faire la synthèse et ça ne s'évacue pas. Alors que le mu'min qui fait ihtisab, il sait que Allah m'envoie ça pour me donner meilleur là-haut. Là, itmi'nan. Là, on comprend, là, on intègre et là, on le prend bien et on avance et on attend al-faraj, l'ouverture qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'était cette qualité. On s'est un peu attardé, mais les autres, on va aller plus vite. Mais il était important de rappeler que la salat, c'est la clé. La relation avec Allah, c'est, mais c'est également la clé pour comprendre ce dunya et espérer le akhirah. Personne ne pourra être heureux de ce monde. On pourrait résumer tout ça par cette phrase. Personne ne pourra connaître le bonheur, sa'ada. Le bonheur, ce n'est pas le bonheur extérieur, mais également et surtout intérieur, tant qu'il n'y a pas assiduité aux cinq prières. Tant que ce front-là ne se pose pas cinq fois par jour, à cinq occasions, je veux dire, devant Allah, régulièrement et avec dévotion et concentration. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Amin. Deuxième qualité, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité. Donc là, on a une autre qualité, et cette qualité, elle est souvent citée de le Coran après l'accomplissement de la salat. La salat, c'est notre premier devoir envers Allah, oui ou non? En termes de amal. En termes de aqidah, c'est tawhidullah, bien sûr, l'unité d'Allah. En termes d'action, c'est la salat. Et maintenant, on passe relation avec les autres. Relation avec les autres, c'est ton implication dans la vie de la société, ton rapport avec ton frère. Ce qu'on retrouve dans l'Iflam, dans beaucoup de versets. Alladhina yu'minuna wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et dans d'autres passages, on parle de l'accomplissement de la salat, immédiatement après, le fait de donner la zakat. C'est-à-dire, ces deux choses-là sont liées. Le droit d'Allah, ensuite le droit des gens. Ayyuqinuna. Non, ça c'est autre chose. Fi amwalim nasibun. Ils ont de leurs biens une partie réservée aux démunis. Alors, certains moufassins parlent de la zakat, bien sûr, le pilier, mais d'une façon générale, faire en sorte que dans les biens qu'Allah nous a accordés, il y a toujours une part pour celui qui n'a pas les moyens. D'accord? Et ce n'est pas forcément Je n'ai pas forcément, qu'Allah m'accorde cette qualité, et à nous tous, mais je le dis pour moi en premier, ce n'est pas forcément quand tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément quand tu as eu ton salaire que là, il y a de l'argent, tu vas donner. Non, c'est au quotidien, ça. Ça, c'est une qualité que nous devons développer au quotidien. Et ça passe par le moment où tu passes à table et qu'il y a un repas. Il y aura toujours quelqu'un de le quartier ou une personne sans distinction de foi, hein, musulman, pas musulman, SDF ou quelqu'un démuni, pense à cette personne. Au moment où tu vas passer à table, prends une petite portion, mets de côté. Si tu manges à midi, midi 15, prends une petite portion, mets de côté, dans une barquette. Quand tu vas à Salat al-Dhuhr, tu trouves Foulan, telle personne, tu dis, tiens, ça c'est repas du jour, ça, repas de midi. C'est pas un manger qui date de, d'accord? Repas de midi. Ça c'est subhanallah. C'est-à-dire que dans tous les bienfaits qu'Allah t'a accordés, tu penses à ton prochain. Ça, c'est une action. J'aimerais moi-même le mettre en pratique, développer. Il faut le travailler, ça. J'avais un professeur, à l'époque où on était étudiant, Al-Madina, Al-Nabawiya, qui nous disait souvent, elle dit, quand la marmite, quand on pose la marmite à table, avant que tu te sers, avant que tu sers ta femme et tes enfants, prends une part de leur cible et le faqir. Prends la part du pauvre. Isole-la. Et attends, après le repas, soit tu donnes tout de suite, peu importe, après, mais ça doit être mis de côté avant de se servir. Parce que si on attend que tout le monde ait mangé, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un repas? Ça s'appelle comment? Dites-moi. Ça s'appelle des restes. Et l'antanal al-birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la piété tant que, traduction approximative, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. C'est-à-dire qu'Allah aime cette aumône qu'on donne de ce qu'on aime. Allah aime l'aumône qui est cher pour le croyant. Ce que tu aimes, le repas qui est encore tazij, qui est encore, subhanallah, qui n'est pas encore touché, c'est ça que tu donnes, une partie. Alors que quand il y a des restes de nourriture, tu sais bien que personne ne mangera plus. Est-ce que c'est un sacrifice, ça? Est-ce que c'est un grand geste? C'est comme on a dit la dernière fois pour ceux qui envoient leur Udhiya, leur Qurbani, l'Inde, Madagascar, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, qui va coûter 30 euros. Et une personne m'a posé la question encore aujourd'hui. Elle m'a dit qu'il y a des gens qui ont un budget. Je ne parle pour personne de l'Assemblée. Hein, d'accord? C'est pas machin. C'est monsieur tout le monde. Il y en a un tous les 5 mètres. D'accord? Donc s'il y en a 3 ici, c'est possible. Il m'a dit, cher, que penses-tu de la personne qui a un budget de 50 euros de cigarettes par semaine? Combien coûte un paquet? Comment on connaît? Romain Yudrik. 10 euros. D'accord? Un fumeur, il a besoin de, je ne sais pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. La moyenne, c'est quoi, un paquet par jour? Minimum. Il dit que dire de la personne qui a un budget de 50 euros? Ben, du coup, 50 euros, c'est quand même tranquille alors. C'est pas beaucoup par semaine. Elle dit, que dire de la personne qui a un budget de 50 euros de cigarettes par semaine, c'est-à-dire 200 euros par mois, et qui, virgule, au moment du Qurbani, prend 30 euros et envoie à Mada. Ou en Inde. Mada est un peu plus cher que l'Inde quand même. Hein. Il envoie 30 euros en Inde pour acheter un cabri ou une part de bœuf. Et ça, c'est son Qurbani. Qurbani, on a expliqué midi. Qurbani, c'est la proximité avec Dieu, avec Allah. C'est-à-dire, par ce sacrifice, tu te rapproches d'Allah. Tu as sacrifié ton bien, ce que tu aimais pour Allah. Mais est-ce que c'est un sacrifice, ça? Il dit qu'il l'a fait shar'an. Shar'an, il s'est acquitté de son devoir. Shar'an, il s'est acquitté. Parce qu'il a fait iraqatud dam pendant la période limitée. C'est fait. Mais est-ce qu'il a vécu l'esprit du Udhiya? Est-ce qu'il y a eu ce sacrifice que tu cherches, tu économises, tu fais, tu donnes pour Allah, tu prends sur toi, tu vas peut-être être un peu moins aisé, avoir moins d'argent, mais tu l'as fait pour Allah. Est-ce qu'il y a l'esprit de sacrifice? Non. Il donne plus pour le tabac que pour Allah. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On est d'accord? Il y a un problème. Donc, pareil, celui qui, dans sa subsistance, son risque, il donne, ça c'est une qualité qui est exceptionnelle et qu'Allah nous permette d'avoir, peut-être pas pour chaque repas, mais essayer d'intégrer ça. Intégrer, Allah m'a donné, je donne. Allah sera satisfait de moi. Allah me donnera baraka. Allah m'enlève une difficulté. Vous savez que parmi les fadail, les vertus de l'aumône, c'est Allah te protège des balas. Allah te protège des difficultés. Et dans certains textes, il est dit, j'ai plus le texte en arabe, que les gens, ils soignaient leurs malades par l'aumône. Quelqu'un est malade, tu donnes un sadaqa pour la personne. Ça permet de la personne, ça permet de repousser les choses qui sont mauvaises, les épreuves et les difficultés. Donc ça, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et je le répète encore une fois, si votre congélateur est plein après Eid al-Adha, revoyez, نَظْرَ ثَانِيَ, revoyez, est-ce que vous n'avez pas trop gardé? Et est-ce que ça te sera profitable toute cette viande-là? Peut-être que dans ton voisinage, il y en a qui n'ont pas eu beaucoup. Partage. Donne pour Allah. Donne. Mais vous savez, donner, c'est dur. Hein? C'est au moment de donner qu'on a des crampes dans les doigts. On a, comment ça, l'arthrite? L'arthrose? Non, on a un autre nom, ça. Quand les doigts irisent, là. C'est une autre maladie. Ah, fille. Là, c'est dur. Pas envie de donner. C'est mon bœuf. Mon cabri. Mon mouton, c'est moi la coupée. Ma fille de nez, assez de nez, non? Garde un peu, oui, garde un peu pour toi. Mais quand tu vois que le crédité ne donne pas, donne. Corrige Ali, dresse Ali. Ça, c'est ce qu'il y a. Ton cœur ne veut pas donner, bilax, donne. C'est là-dedans qu'il y aura la purification de ton nafs. Et tu vas l'éduquer qu'on donne pour Allah. Et je ne suis pas là pour t'obéir, ô nafs. Parce que le nafs y a maratum bisou et le nafs aime. L'argent, حبًا جم. للسائل والمحروم. والذين dernier point, puis on va s'arrêter. والذين يصدقون بيوم الدين. Ça, c'est la clé. Et qui déclare véridique le jour de la rétribution. Et on peut enchaîner avec والذين هم, parce que là, on parle de deux versets qui parlent de là. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, troisième verset qui vient avec, inna adaba rabbihim ghayru ma'mun, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Là on passe à une autre action qui est une action intérieure, on parle des aqida, la personne qui croit en l'au-delà. La personne qui a une conviction, la personne qui a développé la foi iman bil yawmil akhir. Assurément, dans les situations d'épreuves, de difficultés, la personne va s'en sortir. Parce qu'il sait que la délivrance, ce n'est pas de ce dunya. La délivrance, le bonheur, on ne le recherche pas de ce dunya. La délivrance, c'est quand on rencontre Allah. C'est quand on retourne auprès d'Allah. La plus belle rencontre qu'on peut faire de ce dunya, c'est quoi? Dites-moi. Qui a dit? Plus fort. De ce dunya, de ce monde. Pas là-haut, dans ce monde. Quelle est la plus belle rencontre pour le mu'min de ce monde? La rencontre avec l'ange de la mort. L'ange de la mort vient reprendre ton âme dans ce dunya. Dans certains textes, il dit que la vision de l'ange de la mort pour le mu'min, l'homme pieux, c'est suffisant comme récompense pour toute sa vie d'épreuve. Tellement le malakal maut, il se présente à toi avec un aspect qui est magnifique, angélique. Et que c'est suffisant pour remplir ton cœur de joie. Et c'est l'annonce de bonne nouvelle. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. L'annonce de bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de toi. Maintenant, il est grand temps de retourner auprès de ton Seigneur. Allahu Akbar. Rabb, pour lequel tu as fait la salat pendant 45 ans de ta vie. Pendant 75 ans de ta vie. Ce Rabb, pour lequel tu as lu le Coran, subhanallah, kam marra. Combien de khatm al-Qur'an toute ta vie? Rob pour lequel tu as fait 3 hajj, 4 hajj, 15 umrah. Tu as jeûné combien de ramadan et ainsi de suite. Maintenant, les anges disent, tu retournes auprès de lui et tu reçois ta récompense. C'est ce qu'on appelle la délivrance du mu'min. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Ça veut dire, celui qui a ce choc, qui sait que quand je retourne auprès d'Allah, Allah me donnera tout ce qu'il m'a promis. C'est que dans ton cœur, tu as un, husnu dhanni billah, une pensée positive de ton Seigneur, et deux, tu sais que tu as les actions qui vont dans ce sens. Tu as accompli beaucoup de bonnes choses, et tu n'as rien à te reprocher directement. Tu sais que tu n'as pas fait tel péché, tel péché, tel péché, ou s'il y a eu, tu as demandé abondamment, pas suffisamment, mais abondamment, demandé pardon à Allah, et que le cœur est tranquille. L'heure, il faut partir, je suis prêt. Cette personne-là, Allah aime le rencontrer, qu'Allah nous accorde cette qualité. Et donc, la personne donc qui a développé iman, bil-yawm il-akhir, qui a une conviction sur al-akhirah, sur le-delà, cette personne automatiquement fait partie de ceux qui vont s'en sortir des situations d'épreuve et ne jamais sombrer dans le désespoir, ni dans l'ingratitude face aux bienfaits. Hada. Et puis on parle des châtiments. Inna azab rabbihim ghayru ma'mun. Il dit que yuqinuna bil ma'ad wal hisab wal jaza. Ils ont la foi sur le retour auprès d'Allah, al hisab, sur les comptes, et al jaza, les rétributions. Fahum ya'maluna 'amala man yarju ath-thawab wa yakhafu al-'iqab. Ça aussi c'est une clé. Ibn Kathir dit, ces gens-là, qu'est-ce qui distingue ces personnes? C'est que lorsqu'ils accomplissent de bonnes actions, ya'maluna 'amala man yarju. Ar-raja, c'est quoi? C'est l'attente et l'espoir. Lorsqu'ils accomplissent des bonnes actions, ils ont l'espoir de ath-thawab, de récompense, wa yakhafu al-'iqab, et la crainte des châtiments. C'est-à-dire que quand il fait une bonne action, il attend sa récompense. Et face au péché, il craint le châtiment d'Allah. C'est-à-dire, cette personne-là fait le lien entre ce monde et l'au-delà. C'est-à-dire que ce ne sera jamais une pratique rituelle, mais une pratique éclairée et intelligente. Quand on te dit ne bois pas, ou ne fume pas, ne fais pas telle chose, il sait intérieurement que si je m'en éloigne, je m'éloigne du châtiment d'Allah. Et je ne veux pas faire un pas dans un péché qui m'amènera vers le azabullah, vers la colère d'Allah et son châtiment. Et quand il s'agit d'une bonne action, il le fait, même si c'est difficile, mais il le fait pour obtenir le contentement d'Allah et les récompenses. Ça, c'est le croyant intelligent. C'est pas celui qui fait parce que tout le monde fait. C'est pas celui qui fait parce que Moulissa Ben Jaïf fait. C'est pas celui qui fait parce que son papa, son dada, son nanan, et tout le monde le fait. Là, fais-le parce que tu aimes Allah. Ne fais pas telle chose, pas parce que les gens te regardent. Parce que si ici, les gens te regardent et donc tu crains le regard des gens et tu fais pas telle bêtise, quand tu iras en Thaïlande, quand tu iras à Paris, quand tu iras à Moscou ou à je sais pas où, ben tu le feras. Parce qu'il n'y aura pas le regard des voisins, de ta communauté, de ton fundi, de tout ça. Il n'y aura plus personne que tu connais qui te regarde. Tu es ajnabi, tu es gharib, tu es un étranger. Dans ce cas, tu estimes que tu es libre. C'est pas comme ça. On reste toujours sous le regard d'Allah. Ça, c'est une qualité des croyants. Et cette personne qui arrive à ce degré, où il arrive à faire le lien entre son dunya et le akhira, c'est la personne qui a vraiment tout compris et qui craint donc le châtiment d'Allah. N'a'adab rabbihim ghayra ma'moun, ay la ya'manuhu ahadun. Personne n'est à l'abri du châtiment d'Allah. Personne ne peut penser, ne peut oser penser que moi je suis sauvé. Moi, il y a un bon monde, moi. Qui te dit? Qui a donné? Où est ton label? C'est où? Où est le tampon du Jannah? C'est où? C'est sur ton cœur? Où est le passeport du paradis? D'autres poches. Tu as ta carte d'accès au Jannah. Qui te l'a donné? Personne ne t'a donné. Personne n'est en droit de penser que moi je suis bon. Non. Allah seul le sait. Mais fais le maximum d'efforts jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers instants, et ne désespère jamais de la clémence d'Allah, mais en même temps crains le châtiment d'Allah. Et personne n'est à l'abri de chuter à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on demande à chaque fois Ihdinas Sirat al-Mustaqim. À chaque fois qu'on lit Al-Fatiha. On va s'arrêter à la pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il reste encore les autres qualités. Là, on va parler la semaine prochaine, Inch'Allah, walladhina hum li furujihim hafidhun, la personne qui s'éloigne de l'adultère. Qualité essentielle pour faire partie des gens qui sont aimés par Allah. Autre qualité citée dans ce verset. Wa ma tawfiq illa billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte et nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles et de réunir les quelques qualités qu'on a citées et principalement l'assiduité à nos cinq salats et la concentration, la dévotion dans ces salats. Et deuxièmement, le cœur, avoir grand cœur, un cœur généreux où on aime donner pour Allah. Allah nous accorde ses qualités avec fermeté dans notre iman, bilion, milliard, et les convictions de l'au-delà, afin que n'importe quelle personne, même si une personne vient et t'insulte, une personne a abusé de tes biens, une personne t'a manqué de respect, bref, une personne t'a fait volme, et que tu n'as pas trouvé la justice dans ce dunya, parce qu'il n'y a pas de justice dans ce dunya. Il y a un peu de justice des hommes, mais la vraie justice, tu sais que je m'en remets à qui? À Maliki Yaoumiddin. Dans Fatiha, on lit tout le temps. Malik yawmi, maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire, là-haut, c'est Allah seul qui décrète. C'est Allah seul qui juge. C'est Allah seul qui dit qui avait raison, qui avait tort. Et donc, dans ton cœur, même si on t'écrase, même si on t'insulte, même si on t'a opprimé, dans ton cœur, il y a quelque chose qui brille. C'est mon rendez-vous est là-haut. Ça, c'est quand tu développes iman bilion min akhir, qu'Allah nous accorde ses qualités. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.